VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Anastasie Tudiaché, Chérubin, Gaby Dorsil, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du mardi 12 avril 2016. Au sommaire ce soir, Chérubin.
Violence au Burundi, au moins 5 personnes ont été tuées hier soir dans la commune de Gisoro, dans l'est du pays.
Des centaines de morts découverts dans une fosse commune dans le nord du Nigeria.
Au Bénin, les premières mesures du président Patrice Talon suscitent des grincements de dents dans l'administration publique.
Deux décisions viennent de prendre corps. L'interdiction des postes téléviseurs dans les bureaux et l'obligation pour tous les fonctionnaires de venir à l'heure au bureau.
L'aide internationale à la Libye au cœur d'une rencontre à Tunis entre les représentants de 50 pays.
Le Brésil à la croisée des chemins, les procédures de destitution de la présidente Dilma Rousseff viennent commencer.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au moins 5 personnes ont été tuées lundi soir dans la commune de Gisoro, en province de Ruyigi, dans l'est du Burundi. 6 autres ont été blessées, selon le gouverneur de la province, qui indique que 5 personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête, et les autres auraient fui en direction de la Tanzanie voisine. Des coups de feu ont été entendus également hier soir dans le quartier de Musaga, dans le sud. Reportage à Bujumbura de Christophe Hurunziza.
Le gouverneur Hassan Abdallah de la province de Ruyigi, à l'est du Burundi, a indiqué que 5 personnes ont été tuées quand des gens armés ont tiré lundi soir dans le tas au marché de Muninya, en commune de Gisoro. 5 autres personnes ont été arrêtées selon la même source, qui affirme que ces personnes ont été reconnues comme étant originaires de la même colline, mais ayant quitté le Burundi pour se réfugier en Tanzanie. Hassan Abdallah confirme que 6 personnes ont été blessées. Les sources de la population sont formelles. Ces bandits armés ont voulu s'attaquer à l'administrateur de Gisoro, Aloïse Nzirabu, mais se sont mis à tirer sur les gens qui étaient au marché de Muninya. En novembre dernier, 2 personnes, dont un policier, avaient été tuées dans la même commune de Gisoro par un groupe armé venu de la Tanzanie, selon l'administration de Ruyigi. Il est à noter que la Tanzanie abrite plus de 120 000 personnes ayant fui les violences depuis l'élection controversée du président Pierre Nkurunziza. Signalons aussi que des tirs ont été entendus lundi soir dans le quartier de Musaga, au sud de Bujumbura. Selon la police, au moins 6 personnes ont été arrêtées, tandis que le quartier 1 de Ngagara était ce mardi matin bouclé par des policiers. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Un soldat français de la force Barkhane a été tué ce matin dans le nord du Mali. D'autres ont été blessés dans l'explosion au passage d'un véhicule blindé lors d'une opération. Les détails avec Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Ce 13e soldat a été tué au cours d'une opération de contrôle dans la région de Kidal par l'explosion d'une mine contre son véhicule blindé. D'autres soldats français de la même opération ont été blessés dans l'explosion. Dans la zone de Tessalit où s'est produit l'incident, il n'y a que les soldats français qui patrouillent seuls. Les casques bleus de la zone, surtout les Tchadiens, bougent rarement car ils savent que la zone est minée par les djihadistes d'Ansardine qui continuent de mener des opérations isolées. Suite à ces décès, le chef de l'État français a salué la ténacité des soldats français qui poursuivent leur mission aux côtés de l'armée malienne et des forces des Nations Unies pour conforter la souveraineté du Mali et réduire les groupes terroristes dont la menace pèse sur l'ensemble des pays du Sahel. Le gouvernement malien, tout comme la MINUSMA, ont condamné cet acte qui confirme que la lutte contre le terrorisme doit être coordonnée. Rappelons qu'à la date du 26 novembre 2015, les pertes militaires françaises au Mali étaient de 12 militaires, dont un officier et 3 légionnaire. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, un haut responsable a reconnu l'existence d'une fosse commune contenant 350 corps dans le nord du pays. Ce sont des personnes tuées et enterrées au lendemain des affrontements du 12 décembre dernier entre militaires et membres de la minorité chiite à Zaria dans l'état de Kaduna. Eric Manirakiza.
L'origine de la tuerie, c'est la tentative d'assassinat présumé du chef d'état-major des armées, le général Tukur Yusuf Buratai. Un barrage érigé par le mouvement islamique du Nigeria avait bloqué son convoi. Ceci avait provoqué des affrontements entre les militaires et les chiites. Le directeur général du bureau interconfessionnel de l'État de Kaduna, Mohamed Namadi Moussa, a avoué aux enquêteurs qu'il s'est rendu à Zaria le 13 décembre avec le chef de la police de Kaduna pour déterminer le nombre de cadavres et la manière de les enterrer. Le bilan exact reste inconnu, mais un responsable nigérien a fait état de près de 350 corps dans une fosse commune, tandis que le groupe chiite parle de quelques 730 disparus. L'armée nigériane, accusée de graves violations des droits de l'homme dans la répression de l'insurrection des islamistes de Boko Haram, s'est défendue en assurant que les soldats avaient respecté à Zaria les règles d'engagement.
Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a célébré son 70e anniversaire. Fondé le 9 avril 1946 par Félix Houphouët-Boigny, le PDCI est aujourd'hui divisé autour d'un projet d'unification avec le Rassemblement des Républicains, le RDR du président Alassane Dramane Ouattara. Le PDCI est la plus vieille formation politique d'Afrique après le Congrès national africain de Nelson Mandela.
Conflit au Soudan du Sud, le numéro 2 des rebelles est rentré à Djouba, la capitale, avec une délégation d'environ 60 personnes. C'est ce qu'a constaté l'AFP. Alfred Ladugor a tenu à réaffirmer que la paix ne sera pas remise en question. Son arrivée intervient dans le cadre d'un accord de paix signé en août 2015. Quant au chef de la rébellion, Riek Machar, il devrait rentrer à Djouba dans au moins une semaine, plutôt dans moins d'une semaine, pour former un gouvernement de transition avec le président Salva Kiir.
Au Mozambique, un procureur a été assassiné devant sa maison dans la banlieue de Maputo. D'après la police, des inconnus lui ont tiré dessus. Marcelino Vilanculo enquêtait sur une vague d'enlèvements qui frappe le pays. Depuis 2011, une centaine de personnes, essentiellement des hommes d'affaires d'origine asiatique, ont été kidnappées.
En Zambie, deux journalistes ont été arrêtés pour diffamation envers le président Edgar Lungu. Ils ont affirmé dans un article que le chef de l'État avait fait la fête et joué au billard aux frais du contribuable pendant ses vacances. Ces arrestations interviennent dans un contexte de répression des opposants à M. Lungu. À l'approche de l'élection présidentielle du 11 août, le président sortant compte se représenter.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, visite en Libye du chef de la diplomatie italienne. Il est le premier responsable occidental à se rendre à Tripoli depuis les violences de l'été 2014. Sa visite coïncide avec une réunion internationale à Tunis sur le soutien à la Libye. Idriss Fall.
Paolo Gentiloni est resté 3 heures à Tripoli où il a été reçu par Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'Union nationale. Il a réaffirmé que son pays est prêt à coopérer avec Tripoli dans la lutte contre la menace djihadiste en précisant que cette mission est d'abord celle des Libyens. Paolo Gentiloni a remis des aides médicales pour les hôpitaux, dont 3 kits sanitaires pour quelque 30 000 patients. Sa visite intervient au moment où une cinquantaine de pays sont réunis à Tunis pour coordonner le soutien à la Libye. Pour le vice-premier ministre libyen Moussa Al-Koni, parmi les défis à relever outre la sécurité, il y a les services de base comme la santé et l'électricité. Le diplomate britannique Christian Turner a annoncé que le Royaume-Uni allait débloquer 1 million de dollars en aide d'urgence. Le mois dernier, l'OMS avait évalué à 50 millions de dollars de besoins immédiats pour le seul secteur de la santé.
Dilma Rousseff crie à la trahison, vote par vote, député par député, la féroce guerre de tranchées parlementaires autour de la question de la destitution de la présidente brésilienne de gauche est entrée aujourd'hui dans une phase décisive à Brasilia. On fait le point avec John Lennon.
Pas 38 voix contre 27, une commission parlementaire a approuvé hier soir, au terme d'environ 11 heures de débats houleux, un rapport non contraignant préconisant aux députés de voter la poursuite du processus de destitution devant le Sénat. La balle est maintenant dans le camp de l'Assemblée plénière des députés qui se réunira à partir de vendredi dans un climat d'extrême tension pour statuer sur le sort de Dilma Rousseff, accusée de maquillage des comptes publics par l'opposition. L'opposition de droite devra réussir à mobiliser 2/3 des votes des députés, soit 342 sur 513, pour que la procédure se poursuive au Sénat, faute de quoi elle sera définitivement enterrée. Soupçonné de corruption dans le scandale Petrobras, l'ancien président Lula, qui a vu sa nomination mi-mars au gouvernement bloquée par la justice, tente de convaincre des députés de partis secondaires de centre-droit de voter contre l'impeachment.
Après l'inculpation de suspects clés au cours du week-end, l'enquête sur les attentats de Bruxelles et Paris se poursuit activement avec le placement en détention de 2 hommes liés au commando du métro bruxellois et 3 nouvelles arrestations aujourd'hui. Le parquet n'a donné aucune information sur l'identité des personnes interpellées ni sur d'éventuels autres résultats de la perquisition, se bornant à indiquer qu'un juge d'instruction décidera demain de leur maintien éventuel en détention.
La Commission européenne a donné ce mardi à la Grèce jusqu'au 26 avril pour préciser les mesures devant pallier les graves défaillances qui lui sont reprochées dans la gestion des frontières extérieures de l'espace Schengen face à un afflux exceptionnel de migrants. Cette nouvelle échéance imposée à Athènes constitue un nouveau point d'étape avant que la Commission nous délivre son verdict le 12 mai sur le plan d'action que les Grecs ont été sommés de présenter pour mieux protéger l'espace de libre circulation de Schengen.
Donald Trump et Hillary Clinton ont été officiellement déclarés aujourd'hui vainqueurs des élections primaires de l'État américain du Missouri qui avaient lieu le 15 mars. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lyndon.
En Côte d'Ivoire, Corsair International confirme son retour à Abidjan avec 4 vols par semaine dès le 13 juin prochain. Dans un communiqué, son PDG Pascal Deizaguirre a souligné que ce retour a été facilité grâce, je cite, à la qualité des relations entretenues entre les hautes autorités ivoiriennes et Corsair. Fin de citation. Corsair International n'avait pas pu s'imposer en Côte d'Ivoire et avait dû suspendre sa ligne Paris-Abidjan en septembre 2015. On reste dans le transport aérien pour signaler que dans la perspective de la densification de son réseau interne et de l'ouverture cette année de 3 destinations, notamment Abidjan, Bangui et N'Djamena, Equatorial Congo Airlines, Eker, si vous préférez, va émettre un emprunt obligataire de 60 millions de francs CFA sur le marché financier d'Afrique centrale. D'après le magazine Jeune Afrique, l'opération a reçu le visa de la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale. Média, fin d'émission pour Al Jazeera America. Lancée en fanfare en 2013, la chaîne Al Jazeera America, pendant américain de la grande chaîne Qatari d'information continue, vit ce mardi son dernier jour d'antenne. La qualité de la couverture par la chaîne a été unanimement reconnue et elle a remporté plusieurs prix prestigieux de journalisme, mais son audience n'a jamais décollé et elle n'a non plus atteint ses objectifs en termes de revenus publicitaires.
Merci John Lyndon.
Nous passons tout de suite au sport avec Nicolas Pineau. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Parlons d'abord de quart de finale retour de la Champions League en Europe.
Auteur d'un match fébrile à l'aller et d'un résultat nul de partout, le Paris Saint-Germain devra montrer un autre visage ce soir contre Manchester City. En Angleterre, les Parisiens seront privés de Matuidi et de David Luiz au Etihad Stadium. Et dans l'autre rencontre, Cristiano Ronaldo se dit confiant avant le match de ce soir à Santiago Bernabéu, le Real de Madrid qui doit remonter 2 buts de retard face aux Allemands de Wolfsburg.
Les 2 derniers quarts de finale retour, c'est demain.
Duel d'attaquants à distance, Antoine Griezmann passe partout de l'Atlético Madrid, défie Luis Suarez, le dynamiteur du FC Barcelone, dans ce quart de finale après la victoire catalane à l'aller 2-1. Quant à l'attaquant grec Kostas Mitroglou, il devra mener la charge du Benfica Lisbonne contre le Bayern Munich après la courte défaite subie à l'aller 1-0 la semaine dernière en Allemagne. Les champions du Portugal peuvent donc encore rêver demain d'un exploit sur leur pelouse du Estadio da Luz.
Match de folie pourrait-on dire à Auckland lors de la Ligue des champions d'Océanie.
L'arbitre George Time est peut-être entré dans les annales du football en sortant 6 fois de sa poche un carton rouge. À l'issue de 9 minutes de temps additionnel, le club fidjien du Nadi FL a emporté 4-3 contre les Samoans du Kiwi FC grâce à un quadruplé de son buteur Anish Kem. Mais le plus important n'est pas là. Tout le monde retiendra les 6 cartons rouges et les 11 cartons jaunes que l'arbitre a distribués au cours du match. Ça fait beaucoup.
Tennis, tournoi de Monte Carlo.
Andy Murray a peiné pour éliminer le français Pierre-Hugues Herbert en 3-7, 6-2, 6-4, 6-3 ce mardi lors de son entrée en lice dans le tournoi.
Quelques résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
La star des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, a disputé à Oklahoma City le dernier match à l'extérieur de sa carrière. À 24 heures de ses adieux à la NBA, ce sera demain au Staples Center de Los Angeles. Bryant, 37 ans, a quand même marqué 13 points en 19 minutes. Il a fini meilleur marqueur de son équipe, balayé par le Thunder, 112-79. Une victoire des Chicago Bulls face à la Nouvelle-Orléans, 121-116. Victoire de Houston contre Minnesota, 129-105. Dallas est venu à bout de Utah, 101-92. Et Phoenix s'est incliné face à Sacramento, 101-105.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chérubin Gaby Dorcil et Anastasie Tudiech avec vous. Bonsoir et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. C'est Le Monde aujourd'hui. Place au dossier du jour. Chérubin Gaby, première escale ce soir, c'est le Tchad.
Les résultats de la présidentielle de dimanche ne seront pas connus, Anastasie, avant le 23 avril. Et c'est conformément à l'article 74 du Code électoral. En attendant, les déclarations se multiplient en faveur de la transparence du dépouillement et la neutralité de la commission électorale chargée de compiler les résultats. De N'Djamena, la correspondance d'André Kodmajingar.
Après avoir accompli leur devoir civique le 10 avril dernier, les électeurs se tournent vers la CENI. L'organe habilité a donné le résultat provisoire de cette consultation électorale. Mais déjà, la direction de la campagne du président sortant se dit confiante du résultat qui sera proclamé par la CENI.
Nous attendons sereinement et avec une totale confiance le traitement et la proclamation des résultats par les instances nationales compétentes.
Lui, c'est Mohamed Zen Bada, directeur national de campagne du président Déby. Il invite les autres candidats à faire preuve de responsabilité.
L'équipe nationale de campagne de l'Alliance réitère son attachement au respect de la légalité républicaine et des règles du jeu démocratique. Nous attendons de nos adversaires qu'ils se conforment aux mêmes exigences afin de préserver les conditions d'apaisement et de sérénité dans lesquelles le processus électoral a évolué jusqu'à ce jour.
Le porte-parole du candidat Salih Kebzabo, chef de file de l'opposition, Célestin Topona, relève ici certaines irrégularités constatées pendant le déroulement du vote.
Plusieurs urnes ont été emportées, dont trois urnes à Farcha, dans le premier arrondissement municipal de N'Djamena, à Moussoro, dans le Bar El Ghazal. 23 urnes qui ont été enlevées de force pour une destination jusqu'aujourd'hui inconnue. Un schéma de faux résultats a même été concocté par le MPS pour être imposé à la CENI afin d'octroyer la victoire à MPS, alors que sur le terrain, c'est exactement le contraire qui se passe.
Commentaire du candidat Laouken Kouraïou Médar, maire de la ville de Moundou, capitale économique du Tchad. Bien que convalescent, il se prépare pour le deuxième tour.
Il y a eu des cas de fraude qui ont été décelés, ça et là. La police même est témoin. Déby dit qu'on doit lui donner 54% pour qu'il passe au premier tour. Mais si la CENI lui donne 54%, ça veut dire que le Tchad va être ingouvernable. Et moi, j'espère que nous allons passer au deuxième tour, quoi qu'il en soit.
Dans le centre du pays, avec la complicité des autorités administratives, civiles et militaires de la région du Wadaï, les urnes et procès-verbaux du département de Abdi sont ramenés de force à Abéché sans l'avis de la sous-commission départementale de la CENI. Coup de gueule de Darongar Vincent, président du bureau de vote.
Tous les membres du bureau CENI, les opposants, ont démissionné. Parce qu'ils sont venus arracher de force les trucs, donc certains ne sont pas d'accord. Même les résultats sont interdits d'afficher.
Le président de la sous-CENI sous-préfectorale, Amat Makin, confirme le fait et informe que ses agents lui ont dit que l'ordre de ramener ses matériels à Abéché Centre est venu de leur chef hiérarchique. André Kodumadjingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Plein feu sur la pré-scrutin présidentielle au Tchad. Un vote dans le calme, mais l'inquiétude gagne le pays. Dans l'attente des résultats déjà contestés, le Tchad se dirige-t-il vers une crise post-électorale? Que signifie pour le pays et la région un éventuel cinquième mandat d'Idriss Déby Itno après 26 ans au pouvoir? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Niger, première réunion ce matin de la nouvelle équipe gouvernementale mise en place 10 jours après l'investiture du président réélu Mahamadou Issoufou. Que pensent les citoyens nigériens de ce nouveau gouvernement ?
Je ne pense pas que ce soit ce à quoi les Nigériens se sont attendus. Parce que, au regard de tous les défis qui pointent à l'horizon, surtout financiers, je pense que 38 ministres pour un gouvernement d'un pays comme le nôtre, je trouve que c'est un peu lourd. Quelque part, c'est une récompense et politiquement, ça se justifie. Ce qu'on souhaite, c'est que ce choix soit le meilleur pour le Niger.
Le premier constat qu'on fait, c'est un gouvernement pléthorique. Dans le Niger où tout est priorité, l'éducation, la santé, l'hydraulique, l'agriculture, tout est priorité, un gouvernement de 38 ministres est trop pour le pays. Il n'y a que ces partis politiques qui ont accédé au partage, qui ont eu chacun sa part, qui vont vous dire que non, c'est normal, c'est juste, il faut faire 38 ministres.
Un gouvernement de 38 membres n'est ni plus ni moins ce que les jeunes disaient, un partage de gâteau. Rien ne justifie un gouvernement de 38 membres. si ce n'est les alliances qui conduisent au partage des portefeuilles ministériels. Moi, c'est ce que je vois. Et c'est très nuisible, à mon sens, pour l'économie du Niger. Une économie, d'ailleurs, qui n'arrive même pas à subvenir aux besoins essentiels de la population du Niger, qui sont l'éducation, la santé, la nourriture.
C'est une bonne équipe, que Dieu leur donne bonne chance et que notre pays aille de devant.
Ces propos ont été recueillis par notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
Cap sur le Bénin, depuis la formation du premier gouvernement de l'ère du nouveau départ prônée par le président Patrice Talon, les décisions s'enchaînent et entraînent des grincements de dents au sein de l'administration publique. Ginette Fleur-Anandé.
Il l'avait annoncé le 6 avril dernier lors de la prestation de serment. Patrice Talon a dit mettre son mandat sous le signe des réformes administratives et institutionnelles. Deux décisions viennent de prendre corps. L'interdiction des postes téléviseurs dans les bureaux et l'obligation pour tous les fonctionnaires de venir à l'heure au bureau. Désormais, tout fonctionnaire doit signer le cahier de présence disponible jusqu'à 8h15. Excédé cette heure, il sera considéré comme absent. La société civile acclame la fin de la pagaille qui sévit dans nos administrations où tout le monde se prend pour Dieu. Gustave Assa de l'ONG Social Watch se prononce.
Vous allez dans une administration, vous voyez quelqu'un s'est levé, il n'est pas là, il n'est même pas venu, mais il a pris soin de déposer sa veste et une chaussure en bas de son fauteuil là-bas. Le collègue qui est dans son service n'est même pas en mesure de dire, ça fait 2 jours qu'il est venu, et il s'est livré à ses affaires et il gagne l'argent public. Ça, c'est tuer l'entreprise du service public. Ils sont là une fois par semaine ou peut-être une fois par mois et tout le temps ils sont en mission, ils vont gagner cet argent-là. Au nom de quoi ?
L'autre réforme sur laquelle les Béninois attendent le gouvernement est liée au concours dit frauduleux dont l'annulation est vivement souhaitée par les populations qui pensent que les enfants des pauvres sont sacrifiés au profit de ceux dont les parents sont nantis. La décision ne tardera pas puisque le ministre de la Justice a annoncé qu'elle sera au cœur du premier conseil des ministres de Cotonou. Ginette Fleur a demandé pour VO Afrique.
L'insécurité alimentaire et nutritionnelle que connaît l'Éthiopie depuis le début de l'année 2015 persiste. Il s'agit de la pire crise depuis 30 ans qui touche plus de 10 millions de personnes. Le gouvernement éthiopien et le Programme alimentaire mondial, le PAM, doivent apporter une aide alimentaire d'urgence à plus de 7 millions de sinistrés. Nanit Talani a recueilli les explications de Stéphanie Savario, chargée de communication du PAM à Addis Abeba.
Quand vous avez des situations de sécheresse sur des endroits dont les petits agriculteurs dépendent essentiellement de la pluie qui tombe du ciel, bien entendu, les gens sont assez vulnérables. Donc effectivement, l'année dernière, la petite saison des pluies n'a pas été bonne. Et la grande saison des pluies qui permet d'engranger le maximum des récoltes pour l'année a été catastrophique également. Donc il y a des régions qui sont touchées par une production immense. Manque de 40 à 80% de la production de certaines familles, par exemple. Donc ça, c'est des situations assez terribles. Donc là, maintenant, la situation va devenir très, très critique si on ne peut pas continuer à apporter une assistance alimentaire, parce que pour l'instant, on a pu apporter une assistance alimentaire. Le gouvernement a énormément contribué, ce qui est quelque chose aussi d'assez inédit pour cette ampleur-là, parce que le gouvernement a investi plus de 400 millions de dollars, ce qui est assez conséquent. Donc l'aide a été là, donc elle a, si vous voulez, elle a pu aider à passer un cap, mais là, le cap qui se profile maintenant est encore plus délicat. Il faut surtout que les contributions financières puissent continuer. Sinon, là, on s'achemine vers une période vraiment, vraiment difficile parce qu'il n'y aura plus du tout de récolte.
Mais quelles stratégies doivent être mises en œuvre pour éradiquer définitivement cette crise alimentaire ?
Le gouvernement et les autres partenaires humanitaires ont mis en place des systèmes en Éthiopie qui sont bien connus, qui font école dans le monde entier. Seulement, le pays est très grand et ce sont des systèmes qui sont souvent à petite échelle. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place par le gouvernement en Éthiopie et c'est surtout ça qu'il faut aussi continuer à développer. Tout ce qui concerne les investissements qui ont été faits dans l'agriculture, tous les investissements qui sont faits dans tous les systèmes. Là, par exemple, si cette crise peut être aussi bien évaluée, c'est parce que le gouvernement a investi dans des systèmes systèmes d'alerte, dans des systèmes d'acheminement de la nourriture, etc., qui n'existaient pas il y a 30 ans, dans des structures de santé qui n'existaient pas il y a 30 ans. Et c'est grâce à ces structures de santé qu'on peut aujourd'hui acheminer l'aide. Donc, je ne suis pas inquiète pour l'Éthiopie dans le long terme. Seulement, il faut pouvoir aider le gouvernement à passer cette phase-là pour que le gouvernement puisse continuer son chemin de développement comme il l'a si bien fait jusqu'à présent.
Stéphanie Savario, chargée de communication du PAM, jointe à Addis Abeba.
Après 7 années d'existence de Sénégal Airlines et un premier décollage en 2011, l'État sénégalais a décidé de dissoudre cette compagnie aérienne. L'entreprise a traversé une grave crise avec un passif de près de 65 milliards de francs CFA. Une nouvelle ligne devrait bientôt voir le jour, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. À Dakar, Sokhnana Tambay nous dit pourquoi.
Tout d'abord, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie a refusé de renouveler le permis d'exploitation de Sénégal Airlines. L'État du Sénégal a sauté sur l'occasion pour annoncer la dissolution de la compagnie aérienne. La nouvelle est tombée comme un coup de massue. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Amadou Ba.
Le Sénégal a engagé le processus de création d'une nouvelle compagnie aérienne.
Cette année d'existence et de crise, et Sénégal Airlines cède la place à une nouvelle compagnie dénommée Sénégal.
Dans les prochains jours, on devrait avoir une nouvelle compagnie aérienne.
Les prochains jours pour créer la nouvelle société. Mais concrètement, elle ne sera opérationnelle que d'ici des mois, voire des années. Et quel sera l'avenir des agents de la défunte compagnie? Moustapha Diakhaté est coordonnateur du Collège des délégués du personnel.
Aujourd'hui, tout le monde sait qu'on ne peut pas créer une compagnie aérienne et démarrer immédiatement ses activités. Donc il y aura une phase transitoire. De combien de jours, de combien de mois, on ne sait pas. Quel sera le sort du personnel durant cette phase transitoire qui peut aller de 6 à 1 an.
Pourtant, la décision de l'État était plus que prévisible. Elle aurait même dû survenir des années plus tôt, selon Mansour Diop, expert en aviation civile et ancien d'Air Afrique. En dehors de la restructuration, quasi impossible, c'était la seule option.
Il y a déjà au moins 2 ou 3 ans qu'on disait que le passif de la compagnie était très élevé, une 60 milliards au moins.
La nouvelle compagnie est en fin de compte une bonne chose, mais il faudra prendre en compte tous les paramètres pour éviter un énième échec. Mansour Diop.
On a assez galéré, entre guillemets, dans ces affaires-là. Il va falloir choisir les hommes qu'il faut, les mettre à la place qu'il faut.
Les employés de Sénégal Airlines sont restés plusieurs mois sans salaire et certains ont eu droit à un chômage technique avec des avions incapables de décoller. Donc, ils veulent aussi une entreprise durable. Moustapha Diakhaté.
Vraiment, à l'image des compagnies européennes ou asiatiques ou américaines qui ont 50 ans ou même 60 ans d'âge.
Pourtant, dernièrement, Sénégal Airlines avait suscité de l'espoir avec une forte campagne de publicité. Affiches, spots, entre autres. Le Sénégal a connu 3 compagnies aériennes et elles ont toutes fait long feu. Des problèmes de gestion, de management, de finances, mais aussi d'ordre technique. Sans oublier un manque de dynamisme des actionnaires. Avec la nouvelle compagnie en gestation, l'État espère réussir, tout simplement. Sornana Tamay, Dakar, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moumtou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Elle a été mise en onde par Joselle Morissin avec l'assistance technique de Robert Wagner à la console. À la présentation, Anastasie Tudiech et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Faites-nous part de ce qui domine l'actualité chez vous. Suggérez des sujets de reportage pour nos magazines. Partagez aussi vos photos et vidéos. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'informations 24 heures sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma,
96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.